m'agace si je suis trop nul. Je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gute Morgen, ja, wie geht's denn, ihr Lévi Lied? Alles im Butter? Ja, c'est normal, c'est Mittag, gell? Nous revoilu comme tous les mercredis en fin de matinée. Aujourd'hui, j'ai fait une place soyeuse, savoureuse devant notre forêt de micro dans le studio de Radio Judaïka à une dame d'une grande élégance, une baroudeuse. Alors, qui est cette dame chic, éminente, intéressante? Ben, c'est tout simplement Mireille Oster. Mireille est intarissable, elle sait tout, surtout, on appelle ça une tutologue, joli mot, hein. Et je n'exagère pas, non pas du tout, ouvrez grand vos oreilles, quand tout d'un coup son visage s'anime, son œil espiègle, pétille, Mireille nous inonde d'une joie quasi enfantine. Bonjour Mireille Oster, la globe crotteuse, Vicky Edsten, comment vas-tu?
Je vais très bien, merci, merci André, je suis très contente d'être avec toi.
Voilà. Ah, tu aimes la radio, hein?
J'adore
la radio. Ah, tu adores le micro,
ouais,
hein?
J'adore.
Et t'as une voix comme ça qui porte, hein, je trouve, ouais. On verra ça tout au long de l'émission. En fait, clope crotteuse, ça te va bien, ça, croqueuse?
Ouais. Voilà, parce que j'ai sillonné le monde pour trouver des épices, pour trouver des gens, pour des rencontres, pour être proche des gens.
Ouais, on parlera de tout ça un petit peu tout à l'heure. On te présente plus, Mireille Oster, tu es la princesse du pain d'épices, connue au-delà de nos frontières alsaciennes, jusqu'en Asie, à travers la planète. Tu as beaucoup voyagé, tu le disais à l'instant.
En Corée, au Japon, au Vietnam, etc.
Ouais, c'est beau ça. Et alors, tu es la gardienne du savoir-faire familial avec les pains d'épices?
Oui, que j'ai fait, que j'ai modifié un petit peu, parce que j'ai apporté un petit plus à personnel, quoi. Mais en fait, mes grands-parents faisaient du pain d'épices déjà en 1933.
Ah ouais? Mais ils le vendaient où alors?
Mais au marché de Noël, au Christkindlesmerik.
Au Christkindlesmerik, voilà. À l'époque, il faisait moins combien là-bas?
Il faisait moins 25 parfois.
Waouh!
Et je me souviens de ma grand-mère qui avait des petites chaufferettes dans les mains. Quoi,
dans les mitaines?
Dans ses poches. Ah, non, pas de mitaines. Les mitaines, c'est pas bien. En fait, il faut être très couvert au niveau des bronches, couvert au niveau des pieds et la tête. Les mains sont moins sensible au froid dans ces endroits-là.
Ils devaient être glacés, non, à l'époque, tes
non,
aïeux?
Non, ils étaient pas joyeux, mais non, c'est aujourd'hui qu'on se plaint tout le temps. À l'époque, ils étaient contents, et puis quand ils se rencontraient, ils disaient bientôt au marché de Noël, voilà, ouais. Non, mais pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'était une autre période.
Tout à fait.
Et est-ce que le pain d'épices marchait déjà? C'était déjà un peu le même pain d'épices que toi tu vendais,
ben,
des petits cubes?
Les gens adoraient ça, parce que c'était la période de Noël. En fait, ça s'est paupérisé plus tard, mais avant, on ne mangeait ça que pendant la semaine de Noël. Donc, à ce moment-là, parce que ces épices-là chauffent le sang.
Ah oui.
Donc, le clou de girofle, la cardamome, etc., tout ça, la cannelle chauffe le sang. Donc, c'est un produit typiquement d'hiver et qui a des vertus thérapeutiques, c'est vrai, mais qui en même temps a une fonction un peu de conte et de mythe et de... Voilà.
Du Hansel et Gretel, tu veux dire?
Non,
un peu.
Pas
non,
ceux-là.
Pas du tout. Pas ça.
Pas ceux-là. Non.
Ah, ouais. Non, mais parce que la maison de Hansel et Gretel était en pain d'épices, non? C'est les contes de Grimm, non? T'es pas d'accord?
Voilà, bon. Non. Et en fait, c'est dans toutes les traditions des pays où il fait froid. Il n'y a pas de pain d'épices dans les pays chauds. Donc, c'était très drôle quand j'arrivais dans des endroits chauds. Ils ne connaissent pas. Et ils étaient tout contents d'ailleurs d'apprendre.
Et ça leur plaisait dans les endroits chauds? Ils aimaient?
Oui, ça leur plaisait. Parce que ces notes d'épices, on les retrouve dans les parfums, on les retrouve dans les ambiances de maison, on les retrouve, voilà.
C'était plus une friandise on en faisait des plats, on mangeait déjà des
alors, de, c'est de très la... curieux parce que ce n'est ni un gâteau, ni du pain. Donc, c'est vraiment assis comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui emmène à saturation tout de suite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas en manger comme des arachides, pouf, 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 on est une derrière l'autre. Le pain d'épices, lorsque vous en avez mangé un ou deux morceaux, c'est ça se ferme.
Satiété, tu veux dire?
Voilà, satiété. Et vous ne pouvez pas en manger plus que parce qu'il y a du miel dedans, parce qu'il y a du beurre, parce qu'il y a dans les pains d'épices qui sont faits fac secundum martem, parce que si c'est fait industriel, bon, c'est pas du tout la même chose, parce que En industrie, on remplace le miel par le glucose.
Waouh, ça c'est
pas
la même
chose. Par le sucre inverti.
Ah ouais.
Mais qui a une puissance de sucre très forte. Donc le sucre appelle à nouveau à manger.
Ah oui.
Quand on dit à un enfant, ne mange pas de bonbons avant de te mettre à table. Ici, laissez-le faire parce que ça lui ouvre l'appétit.
Ah, ça on ne le savait pas, ça.
Oui, le sucre ouvre l'appétit.
Ah, oui. Mais tu disais à l'instant, Mireille, qu'à satiété, ça veut dire que si tu en as mangé deux, tu ne peux plus manger. Mais après, tu ne vends plus après. Si tu manges que deux, bah c'est pas bon pour le business, ça.
Non, mais faut toujours fonctionner le business. En fait, c'est quelque chose qu'on peut poser et puis une heure après, on en reprend deux.
Mais on ne va pas
finir le paquet tout de suite comme ça.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Mireille, aussi, tu habitais aussi dans Im Kleine Frankreich, à la Petite France. C'était un quartier très populaire, là où tu as vécu, où tu avais ton magasin.
Alors, en fait, c'était l'endroit du magasin et c'était l'endroit d'une partie de ma famille. Donc, j'allais chez mes tantes là-bas.
Et ça remonte à quelle année, ça, à peu
près ? Ça remonte dans les années 50. Hein.
Ah ouais ?
Et le magasin, dans les années... appartenait à maman. Donc, elle l'avait pris en 81. Et moi, j'ai repris en 97.
Tu parles de la Spetzkos, de la rue de la Dentelle.
Ah ouais, ouais. Spetzkos.
Et alors, la Petite France, c'était un village dans la ville de Strasbourg. Hein, c'était
c'est le quartier un peu... C'est le quartier Renaissance de Strasbourg, alors que les beaux quartiers comme le quartier Impérial, ça a été beaucoup plus tard. Là, c'est un quartier Renaissance.
Ah, très bien. On va se faire reposer un tout petit peu les oreilles. On va mettre la petite musique de Mika, « C'est la vie ». Je crois que tu m'avais demandé ça,
oui,
parce que tu aimes Mika.
Oui, j'adore Mika.
Wow. Il a une énergie
vivant,
folle.
Il vit, quoi. Oui, oui, ça pulse. Voilà.
Allez, on pulse.
C'est quoi ces fleurs et son amour, mes frères et sœurs et leur cœur lourd, placard fermé à double tour.
Quelle énergie, hein, dis-moi. C'est incroyable.
Oui.
N'oublie pas de mettre ton casque, tu vas mettre le casque.
Ça fait plaisir de voir des gens joyeux.
Joyeux, heureux.
Il a un sourire qui est bouleversant. Il a une énergie sur scène qui est incroyable.
Ouais.
Incroyable.
Et quelle élégance, il est toujours très élégant.
Tout à fait.
Il sait s'habiller, il sait...
Tout à fait. Hein. Et il sait être bienveillant, il sait aller vers les gens, il sait... voilà.
Il est bien élevé, quoi. C'est un garçon bien élevé.
Oui,
tout à fait. Alors, on parlait à l'instant de la Petite France. En fait, c'était aussi, à l'époque, quand tu l'as connu, un endroit industriel. Il y avait de la tannerie, il y avait une glacière. Et
Il y avait des moulins.
Des moulins.
C'est un quartier de moulins.
Ah ouais.
De moulins
pour faire de la farine, tu
veux dire ? Oui, les Spitzmühle.
Ah, les Spitzmühle, ouais.
Voilà. Donc, en fait, il y avait trois moulins. Il y avait le moulin de Sorn, il y avait la Würzmühle, donc qui a été un des premières maisons qui faisait la mouture d'épices.
Ah oui.
Parce que Strasbourg est une ville portuaire, hein. C'est la deuxième ville portuaire de France.
Oui, c'est étonnant, on n'a pas la mer.
Mais
hein.
C'est
quand même incroyable.
Voilà.
Tout ça avec le Rhin.
Voilà, mais ce Rhin, il est incroyable, il est fantastique.
Ouais,
on commence à s'intéresser au Rhin, on en finit.
On fera une émission sur le Rhin, si tu veux.
Oui, vraiment, parce que c'est...
Le Rhin gauche ou le Rhin droit ?
les deux, mon général. Mais en fait, c'est un endroit fabuleux.
Ah ouais, c'est vrai.
Plein d'histoires, de contes, de légendes, de...
Ah ouais.
Il y avait le Vater Rhein, donc, qui était sur la place Broglie, là, juste devant l'opéra.
Ah ouais.
Maintenant, il y a la mer Kinzig aussi, qui était sur le pont de Kiel. Et maintenant, ils ont récupéré cette statue dans le Rhin, et elle se trouve sur la place du marché à Kiel.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, la mer Kinzig,
et
elle était à côté du Vater Rhein, quoi.
Ah ouais. Wow, tu en sais des choses.
Voilà.
Écoute, pour parler un petit peu de cette l'île, en fait, on parlait de l'eau à l'instant.
Oui.
Et dans cette eau, on avait aussi les pots à l'époque de Im Kleine Frankreich, pour les tanneries.
Voilà. En fait, là-haut, vous avez la rue du Fossé des Tanneurs.
Ouais.
Il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau qui arrivait depuis la place Broglie. Et qui descendait, d'ailleurs vous remarquez que c'est en pente.
Oui, c'est vrai.
Et donc ça descendait dans l'île. Et là, ils rinçaient à l'aise, hein, les pauvres, les écolos aujourd'hui. Ils seraient,
ah bonjour les odeurs, hein. Waouh.
Alors c'était un cloaque, hein.
Ouais,
c'était un cloaque, c'était pestilentiel.
Ah oui.
Et puis, après, il y a eu les moulins, donc le moulin de Sorn, la Würzmühle, qui était le moulin d'épices, et le Spitzmühle.
Ah oui.
D'où le nom Spitzgosse, il allait au moulin Spitz.
Ah oui, d'accord.
Ouais, mais un imbécile de fonctionnaire français qui a traduit ça avec un Larousse, il a vu Spitz, il a marqué dentelle. Heureusement qu'il n'a pas marqué craché, parce qu'on aurait eu la rue des crachats.
Mais en fait, dans la rue de la dentelle, il y avait des dentelières autrefois.
Mais non, pas du tout.
Mais alors, tu dis ça à l'instant, c'est un fonctionnaire français qui a fait ça.
Oui.
Qui ne connaissait rien à rien.
Mais il a
quoi.
Fait plein de bêtises. Celui-là, il a appelé la rue du maire Kalb, il l'a appelé la rue des Vaux. La rue de M. Knobloch, il l'a appelé la rue de Light. Voilà. Enfin, franchement, mais ouais. ces gens-là vont se retourner dans leur tombe. Quoi.
Et alors, il y avait aussi, pour Petite France, pour en terminer, il y avait aussi le petit bois vert. Là, tu sais, on allait tous boire des pots dans les années 80.
Ah oui, avec ce super arbre.
Le platane.
Ah, il y a un platane de 300 ans, là, qui est fabuleux.
Tu sais que c'est le plus vieil arbre de la ville.
Oui, oui. Ouais. Et cet escalier qui monte à côté, ouais. là, qui est vraiment
ouais,
magnifique.
Qui est magnifique, ouais.
Et c'est un endroit très magique le soir, en été.
Ouais, il y a des lumières.
Là, et là, on se baignait.
Ah
donc
ouais.
on descendait
tu te souviens
de
ça
hop,
ah
on
ouais.
sautait là-dedans.
Ah ouais.
Il y avait des bains à la Petite France, il y avait les bains Weiss, il y avait...
Ouais.
Oui, c'était très animé.
Et tu sais que ce platane, en fait, il y a une sorte de... Quand les branches se regroupent au-dessus, il y avait une sorte de plateforme. On disait toujours que les gens jouaient de l'accordéon là-dessus.
Ah,
et que les gens dansaient en dessous de l'arbre.
Ah, mais on s'amusait bien, ouais. À Strasbourg, on s'amusait vraiment bien. C'était la fête tout le temps. Il y avait des endroits festifs comme le Grand Kléber, il y avait plein de choses.
Ouais, ouais, ouais. Et alors, pour parler de cette rue de la dentelle où tu avais ton magasin, quand on y pénétrait dans cette rue de dentelle, on sentait déjà les odeurs du pain d'épices.
Oui, oui.
Alors, ça, pour toi, c'était une super réclame, ça, non? Les gens venaient directement au magasin.
Tout à fait. Ils passaient sur le pont Saint-Martin.
Ouais.
Et déjà là, ça sentait. Et donc, ils revenaient, hop. Alors, il faut savoir que les Alsaciennes cuisaient le pain d'épices pour assainir les maisons en hiver.
Ah ouais.
Donc, c'était pour que les bronches soient désinfectées,
c'est
nettoyées,
un peu comme
etc.
Le
papier d'Arménie.
Papier d'Arménie, c'est un peu la même chose.
La même formule que le pain d'épices.
C'est pas vrai.
Oui.
Ah ouais.
Et ce papier d'Arménie, donc, contient du cannelle, clou de girofle, etc. Enfin, la formule initiale. Hein. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils trafiquent parce que, comme il y a des normes, il y a des trucs... Et cette Arménie, j'en place une parce que celle-là, elle est importante. Le pain d'épices est originaire de Urumqi, donc en Mongolie. Donc, c'est les hordes de Genghis Khan déjà qui avaient emporté ça. Mais surtout, c'est originaire d'Arménie.
Ah, d'accord.
Et c'est l'évêque Grégoire d'Arménie qui était un ascète et qui est mort en France. D'ailleurs, il est mort à côté de Pithiviers. Et il avait emporté avec lui la recette du pain d'épices et distribuait ça à ses collègues prêtres. Et donc, c'est comme ça que le pain d'épices est arrivé en France. Et à Pithiviers, il y a une confrérie de pain d'épices. Ça, c'est un des accès du pain d'épices.
Qu'est-ce qui a fait le succès du pain d'épices de Mireille Oster? Pourquoi ça a tellement marché? Parce que tu en as vendu partout, presque dans le monde entier. Tu as voyagé, tu en as vendu. Tu es quelqu'un de connu, de reconnu. Tout le monde te connaît. Ton pain d'épices, tout le monde l'a acheté.
Et donc, je suis allé, par exemple, à Tel Aviv.
Ouais, en Israël.
Et en Israël. Donc là, les gens ne connaissent pas le pain d'épices. Et j'étais dans une assemblée d'acheteurs grands magasins, parce qu'ils sont très curieux de choses qu'ils ne connaissent pas. Et là, les gens goûtaient et disaient « Ah oui, c'est bon !» Et il y en a un qui a dit « Ah, mais je connais ça !» Et c'était quelqu'un de Pologne. Donc, parce qu'en Pologne, il y a aussi une grande capitale du pain d'épices, à Toruń. Et lui, il a dit « C'est Pierniki !» Exactement, c'est ça. Donc, c'est le seul qui connaissait ce produit. Les autres ne connaissaient pas. Et je m'étais amusé à faire un pain d'épices aux sept fruits sacrés d'Israël. C'était une façon.
Et ça a plu là-bas? Les gens l'achètent toujours?
Non, c'était des choses ponctuelles.
Ponctuelles,
on faisait la French food avec les grands chefs, etc. Et Thierry Marx était dans un coin, il y avait un grand buffet. Et il était dans un coin avec un de mes sachets et puis il mangeait ça. Et je dis... Qu'est-ce que vous mangez là? Il me dit, le pain d'épices, moi j'adore ça.
C'est vrai que tout le monde aime, c'est vrai que ça nous rappelle Noël, notre enfance.
Voilà.
Dis-moi, Mireille, tu es une poétesse, tu parles, tu parles comme des livres, tu aimes la poésie aussi, hein, parce
oui,
que
j'aime lire.
Tu aimes lire, et puis
j'aime lire.
Je sais aussi qu'un des pains d'épices s'appelle Croque-Bisou. Qu'est-ce que c'est joli, ça.
Oui, il y avait le pain d'amour, il y avait Croque-Bisou. Croque-Bisou, on avait fait un pain d'épices avec des petites lèvres dedans.
Ah, oui. C'est toi qui as trouvé tous ces mots,
oui,
c'est toi qui t'es occupé de tout ça.
Ah.
Parce que tu aimes aussi communiquer, tu aimes aussi...
J'aime les gens.
T'aimes les gens avant j'aime toute chose,
gens.
Ouais.
Et... J'aime les gens, j'aime les différences des gens.
Ouais. Et puis les gens te le rendaient bien, parce que dans le
oui.
magasin, ils voulaient te voir, ils voulaient
oui.
voir toi.
Oui, oui, hein? Peut-être.
C'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est ce que les gens disaient, ouais. Et alors, je vais te faire écouter une petite musiquette émotionnelle, tu vas voir Secret Garden, tu vas voir
oui.
comme c'est beau, ça.
C'est
ça va donner la chair de poule.
Bien.
Ça fait rêver, ça fait voyager.
Oui.
C'est beau, hein, cette musique.
Oui.
Belle musique.
Il y a des petites notes orientales aussi.
Absolument.
Dedans.
C'est pour ça que je voulais. Justement, ouais. on va venir un petit peu au voyage. Je sais ouais. que tu as beaucoup, beaucoup voyagé. Et partir, c'est apprendre, rencontrer l'autre, savoir qu'il est différent de nous. Et ça nous permet de grandir.
Ce que j'allais chercher, c'était sa différence. Donc, quand je voyageais, c'était de voir comment eux envisageaient les choses, comment ils les voyaient, etc. Et comment. Leur façon de vivre, leur façon d'aimer, leur façon de manger, tout était excitant, très excitant. Ouais.
Ouais,
l'autre est vraiment intéressant.
Ouais. Et après, c'est vrai que tu as des petites anecdotes sur la Chine, le Japon, l'Israël, tu connais, tu étais à Jéricho, peut-être à Jérusalem.
Non, j'étais à Nazareth.
À Nazareth, ouais.
Enfin, j'étais surtout à Tel Aviv, et puis après, ouais. bon, j'ai fait un petit peu de... Parce qu'on peut pas, c'est un pays extraordinaire. Et la chose qui m'a étonnée, je me suis dit, mais c'est si proche. Je pense, pour moi, Israël, c'était très, très, très loin. Et en fait, et j'ai goûté leurs produits, quoi. Et c'est vraiment... Je suis allée au marché.
Tu as rencontré les épiciers, alors, ceux
bien
qui
sûr,
vendaient des
bien
épices
sûr. Donc à Nazareth, chez Tony. Tony de Nazareth, qui m'a emmené voir la fontaine de la Vierge Marie, qui m'a
wow.
emmené dans les catacombes, qui m'a servi du café à la cardamome, on a fait des feuilles de vigne farcies ensemble.
Wow.
Les gens sont très chaleureux. Hein,
raconte-moi, c'est comment une épicerie là-bas
En fait, c'était un très grand moulin d'épices, donc c'est immense, immense. Il y a une toute petite porte à l'extérieur.
Ouais.
Le chauffeur de taxi me dit, bon, il n'y a rien là.
Il n'y a rien à voir.
C'est là. Et donc, on est rentré. J'y suis allé trois fois d'ailleurs, trois années de suite. Et il y a des grands sacs, il y a des mélanges, etc. Et j'ai voulu du za'atar parce que j'avais goûté ça au Liban. Au Liban, le za'atar, frais, pas le mélange d'épices qu'ils mettent sur le pain, sur les manouchés, mais le frais. Et il m'a emmené dans une rue où ils vendaient des bouquets de za'atar, qui est un thym sauvage, qui ne peut pas pousser ici, et qui a un goût vraiment particulier.
Et tu n'avais pas une petite anecdote au Liban, quand tu es venu, ils ne voulaient pas manger parce qu'il y avait un carême ou je ne sais pas quoi, c'était pas
ah
au
non,
Liban.
Non, eux, ils ne goûtent pas quand c'est le carême.
Ah ouais.
Donc malheureusement, la manifestation française avait lieu au moment où il y avait le carême, et ils disaient non, pas maintenant, mais ils le prenaient.
Et alors ils l'emmenaient.
Oui, oui. J'ai dit, mais le vrai carême, c'est de le voir et de ne pas y toucher. Hein.
C'est joli, ouais.
Et il disait, je bénis vos mains, je bénis vos yeux. J'ai rencontré des gens extraordinaires aussi là-bas.
Ah ouais. Et tu avais aussi une petite anecdote en Chine, hein, je crois, avec ces baies là qui te donnent une meilleure vue.
C'était... Ah, ça, c'était les baies de Goji.
Ouais.
La baie de Goji, donc, qui est le lycée de Chine. Hein. Le nom français, c'est lycée de Chine. En fait, j'avais trouvé ça dans un magasin de thé. Et je dis à la fille, qu'est-ce que c'est ça? Alors elle me dit, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour les bronches. J'ai goûté, j'ai dit, mais c'est bon au goût aussi. Et
ça gagne le coup, Mireille, ça
acidulé.
Acidulé.
Ah ouais. Donc, je suis rentrée en France. Je ne suis pas importateur, donc c'est très difficile d'acheter. Je peux prendre les échantillons, mais je ne peux pas acheter. Et en France, j'ai demandé à un Chinois qui travaillait dans une chambre de commerce de me trouver une filière pour faire venir ça. Et donc, maintenant, il continue encore à faire venir qui est très prisé d'ailleurs par les véganes, par tous les gens. Ah, oui. Voilà. Mais on avait fait donc Nuit de Chine. Le pain d'épices s'appelait Nuit de Chine.
Tu en sais des choses, Mireille. Voilà. C'est un vrai conte de fées, ton histoire, hein, les deux pains d'épices, Mireille. Je vais te faire écouter une belle musique, Out of Africa. Tu verras, c'est quelque chose de pareil, d'émotionnel.
Oui.
Oh, j'aime tu bien. Vas aimer ça.
Moi, j'adore, j'adore.
Dis-moi, quelles sont les images qui te viennent?
Je vois Robert Redford en train de laver les cheveux de
Meryl Streep. C'est horrible.
Ouais. Oh. Et c'est vraiment exceptionnel, cette scène. Elle est vraiment très belle.
Moi, j'adore cette scène aussi. Ouais. Alors, tu sais, quand ils sont dans l'avion, là, et ils sont au-dessus de l'Afrique, dans cet avion jaune, et quand elle lui donne la main à l'arrière, comme ça, qu'est-ce que c'était beau, quoi, comme film. Et puis,
c'est vraiment...
c'est un film extraordinaire.
C'est un film exaltant. D'ailleurs, cette Karen Blixen, elle est incroyable.
Ah, ouais, elle avait fait
c'est
un
elle
beau
aussi
livre.
Qui avait écrit le festin de Babette.
Ah oui, c'est vrai, c'est beau aussi, ça. Ouais.
Et là, son histoire d'amour, elle était vraiment exceptionnelle.
Et c'est John Barry qui a fait la musique.
Le premier mari de Jane Birkin.
Ouais, c'est ça. Il en a fait plein. Des musiques. Ouais. Oui. Mais ça, c'est un très grand film que tu peux voir et revoir.
Extraordinaire. Et ça soulève le cœur.
Absolument.
Ça fait chanter les émotions.
Émotions. Et qu'ils étaient toujours très bien habillés. Redford, il avait des habits
safari.
Extraordinaires.
Oui. Le style safari,
Des sahariennes, comme ça, avec des pantalons. Des boum, pose, comme on dit en alsacien.
Oui, c'est
avec
ça.
Avec des bottes. Voilà. Qu'est-ce que c'était beau. Voilà. Bah écoute, et aujourd'hui, dis-moi un petit peu ton magasin. Qu'est-ce qu'il est devenu?
Je l'ai vendu à un homme charmant, originaire de Strasbourg et qui vit à Nancy et qui a une dizaine de sociétés et qui est tombé amoureux de mon magasin.
Et il le connaissait comment? Il te connaissait
et
par la presse?
Donc fait, c'est un petit cousin à lui qui travaillait dans la boutique. Qui lui en avait parlé, donc il est venu et puis il a fait une offre et puis voilà.
Et tu n'as pas aujourd'hui un petit pincement au cœur d'avoir quitté ce beau monde?
Non.
C'est pourquoi un,
non. Mais non, il ne faut jamais regarder derrière. Il faut regarder devant. Il ne faut jamais se retourner. Celle qui s'est retournée, elle a été changée en statut de sel.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
On ne peut pas effacer 40 ou 50 ans de ta vie professionnelle.
C'est pas effacé, c'est imprimé.
Ah, c'est beau
imprimé,
ça.
Voilà.
Ah oui.
Mais ça ne procure pas de regrets, quoi. Il ne faut jamais regretter quelque chose.
Ben, j'aurais dû venir te voir quand j'ai quitté la télé, parce que moi, j'avais quelques regrets au départ.
Il ne faut pas.
Bien. Ouais.
Tu es dans le cœur des gens, tu es dans leurs machines, tu es dans leurs fichiers, dans leurs archives.
C'est vrai, tu as raison.
Mais jamais regretter, jamais.
Et ils me le rendent bien aujourd'hui encore, parce que dès que je me promène quelque part, ils viennent tous vers moi.
Voilà.
Mais pourquoi le Goethe a disparu?
Voilà.
Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais voir avec toi, parce que tu affectionnes Dame Nature, tu aimes admirer un arbre, une plante, un oiseau, tu aimes observer, tu es une contemplative.
Alors j'aime regarder, j'aime sentir surtout. Et donc je dis aux gens, n'ayez pas peur de l'orage, parce que l'orage est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il pleut, lorsque l'orage a eu lieu...
Quand ça gronde et quand les gens ferment les volets, ils ont peur.
Non, il ne faut pas avoir peur.
Toi, tu n'as pas peur.
Non, il ne faut jamais avoir peur. D'ailleurs, dans la Bible, on vous dit « n'ayez pas peur ». Le pape, une fois, Jean-Paul II avait dit « n'ayez pas peur, le mur de Berlin est tombé ». Voilà, il ne faut jamais avoir peur parce qu'on crée une situation qui permet à l'adversaire d'attaquer. Il faut jamais avoir peur.
Mais qu'est-ce que tu sens quand il y a après l'orage? C'est quoi? Tu sens la
donc,
terre?
Vous marchez, par exemple, dans le Ride, au château Pourtalès, etc. Ouais, et, tout, et tout à coup, il y a une odeur qui monte. Et je m'étais toujours dit, c'est incroyable, cette odeur. Et en fait, ça s'appelle la géosmine.
Ah bon? C'est quoi ce mot?
La géosmine est une streptomycine que la plante fabrique pour attirer les insectes et que ces insectes-là pollinisent les fleurs. Donc, c'est fait exprès. Mais c'est extraordinaire comme odeur. Et il y en a une autre qui suit, qui s'appelle pétrichor.
Pétrichor, c'est quoi? C'est pierre et quoi? Et pierre?
Pétrichor, c'est H-O-R. Ouais. Et ça, c'est recherché par les nez parfumeurs.
Par les parfumeurs.
Donc, ils essayent de recréer tout le temps cette odeur de mousse mouillée. Mais c'est fantastique. Regardez l'orage autrement.
Ouais.
Il est fabuleux parce qu'il permet la pollinisation des fleurs.
Il y a quelques jours, là, il y avait un orage avec des nuages un peu arrondis comme ça. On avait un ciel incroyable.
Alors, donc, je me lève très tôt. Je me lève à 6 heures le matin. Et donc, et je me dis, qu'est-ce qui se passe là-haut? Et je vois une espèce de rouleau gris avec des bords roses qui tournent comme ça et qui couvrent tout le ciel.
Ouais, j'ai vu ça aussi.
Comme un déroulé de couverture.
Ouais, ouais.
Et en fait, ça s'appelle un arcus.
Ah bon?
A-R-C-U-S. Et puis, l'année dernière, au mois de novembre, je me rendais dans le quartier de la Roberto et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc qui descend du ciel? Il y avait comme des aurores boréales.
Wow.
Du bleu, du rose, du... Voilà, on n'a pas besoin d'aller loin, on a tout.
Oui, mais tu sais aussi regarder, Mireille. Tu sais regarder, tu sais sentir, tu aimes la vie. Hein.
Oui.
Tu aimes la vie, ça sent.
J'aime la vie.
Ouais, ouais,
j'aime
ça
la
sent.
Vie.
Et tu aimes l'autre, tu as du respect pour les gens et tout.
Bah, j'essaye.
Ouais.
Hein,
ouais, quand même, c'est vrai.
Parce que, quand même, pourquoi je serais en désaccord avec lui parce qu'il n'est pas comme moi? Non, mais ça ne va pas la tête.
Non, mais je ne sais pas, c'est une question qu'on se pose comme ça. Je sais que tu as beaucoup de respect pour l'autre,
oui,
que tu le respectes.
Ouais. Parce que l'autre m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, c'est vrai. Alors, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te promener? Comment tu lis? Qu'est-ce que tu fais?
Je lis beaucoup, d'accord. Je cuisine, j'essaye des recettes, j'invite des gens à déjeuner, il y a plein de choses, voilà.
Tu voyages encore un peu? Tu as l'occasion de voyager encore?
Je voyagerai, oui.
Et tu iras au Christkindlesmarkt cette année, acheter du pain d'épices?
Ah non, ça c'est fini.
Non mais je sais bien, mais toi tu iras comme acheteur.
Non,
acheter du pain d'épices.
Non, parce que voilà, ça ferait partie des regrets, ça je ne vais pas.
Voilà. Ouais, bah écoutez, en tout cas Mireille, j'étais très très heureux de te recevoir devant ces micros de Radio Judaïka. En fait, tu as une voix qui porte et qui rapporte et tu pourrais vraiment faire de la radio, tu as une voix, et puis tu racontes de belles histoires, des vrais contes, c'est très bien.
Ouais.
Merci beaucoup Mireille d'être venue à ce micro.
Merci,
et puis la
merci,
semaine prochaine, à la même place, à la même heure, il y aura une autre invitée ou un autre invité, mais cela, c'est une surprise. Générique de fin, on y va, on le claque. Salut!
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée.